C'est un privilège d'être ici dans la maison du Seigneur. Ce matin, j'ai fait quelques notes que le Seigneur m'a accordées. J'ai écrit certaines choses que le Seigneur m'a accordées. Et je pensais que si je reçois la possibilité, je vais en parler avant de prier pour les malades. Mais nous avions pris plus de temps avec les questions et réponses ce matin. Et je ne savais pas comment est-ce que ça allait être avec ma mère. Et que peut-être que ce soir, je pourrais peut-être revenir si par cela le programme de Frère Neuvel n'est pas interrompu. Tout à l'heure, je viens d'entendre un témoignage merveilleux d'une sœur chrétienne. Elle était dans la lignée de prière ce matin. Et elle se tenait là, en fait, dans la lignée pour quelqu'un d'autre. Et dans sa chambre, qui est normalement une chambre sombre, elle a le tableau accroché sur le souper du Seigneur. Et aussi, le soleil ne brille pas dans cette chambre. Et c'était à peu près vers 15 heures l'après-midi. Subitement, la lumière surnaturelle a éclairé la chambre. D'une manière que la même lumière qu'avait éclairé alors que nous avions ici parlé des sept sages et d'église. Et elle a été un peu attentive à ce qui s'est passé. Elle est allée vers sa sœur et elle lui a dit, et sa sœur aussi s'est étonnée, car c'était déjà une heure qui avait passé. Et ensuite, ils ont appelé un prédicateur, le frère Streka, et pour qu'il puisse voir cet événement surnaturel là-bas sur le mur, ce qui s'était passé. Et elles ont demandé au prédicateur et il ne pouvait pas prier parce qu'il était vraiment surpris et étonné. Et quelqu'un a parlé en langue et l'interprétation a été donnée. Et ensuite, il a été dit que dans ses pensées, elle n'a pas compris la signification de cela. Car ça devait être un signe pour lui dire que c'est parce qu'elle a accepté le message et que le message qui est sorti de là, d'ici, et qu'elle verra de plus grandes choses que cela. Même comme Jésus disait, les anges qui montent et descendent. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes arrivés très proche de la fin. Cela semble être étonnant, mais pour les chrétiens, ce n'est pas étonnant. Et je suis reconnaissant jusqu'à ce que nous sommes à la fin. Et j'étais en train de parler de cela et quelqu'un me disait, mais penses-tu être heureux de ce que c'est la fin des temps? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, mais ça n'a pas de raison que quelqu'un soit attendre la fin du monde. Je dis, tu sais, à la fin, le Seigneur revient et moi, je veux le voir. Et la Bible dit que tous ceux qui ont aimé son avènement se réjouissent. Et c'est quelque chose de précieux de savoir que toutes ces choses de la vie là vont cesser, vont passer et que nous pourrons le voir. Il n'y a pas longtemps, cela c'est des années en arrière alors que l'esclavage encore existait, il y avait un vieux homme nègre, donc de peau noire. Et dans cette région, ils aimaient beaucoup chanter. Et il y a un prédicateur qui est venu aux esclaves et les esclaves avaient une réunion. Et un soir, une vieille personne, un vieux esclave a été sauvé. Et après qu'il a été sauvé, il fut libre. Et alors, les autres esclaves ont dit, mais le matin, tous les autres esclaves ont dit, je suis libre, je suis libre. Et il a dit aux autres esclaves, je suis libre, je suis libre. Et alors, le chef a dit, mais Sem, j'entends que tu dis à tous les esclaves que tu es libre. Il dit, oui, je suis libre parce que lors d'une réunion hier soir, j'ai été délivré de la loi du péché et de la mort. Donc, il a rendu témoignage à tout le camp des esclaves qu'il est libre. C'est ça, être libéré de la loi du péché et de la mort. Comme c'est écrit dans Romains 8. J'avais été lié, maintenant je suis libre pour marcher selon l'esprit. Comme ce matin, je le disais, la mort est seulement dans le péché. Le péché et la mort, c'est la même chose. Merci, vous êtes délivré de du péché. Vous êtes délivré de la mort. Si vous êtes ôté du péché, vous êtes ôté de la mort. Vous n'êtes plus dans le péché et de la mort. Si vous êtes délivré du péché et de la loi, alors vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. Et son patron lui a dit, mais Sam, est-ce que tu penses vraiment que cela est ainsi? Il dit, oui, le Seigneur hier soir m'a appelé à prêcher sa parole à mon peuple pour que eux aussi ils soient délivrés, malgré qu'ils soient esclaves, pour qu'ils puissent être délivrés de la loi du péché et de la mort. Et le patron lui disait, mais vraiment Sam? Il dit, oui, ça je le pense réellement comme ça. Et alors, je ne sais pas ce que tu vas faire avec moi, patron, mais ça, je te le dis. Je suis libre, j'ai été délivré. Et le chef est venu, est sorti, et a dit donc, moi, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu aussi, tu es libre. Va maintenant, je t'accorde ta délivrance et fais ce que tu as dans ton cœur, tu es libre. Je signe ta délivrance. Tu peux, à partir de maintenant, faire ce que tu sembles bon et prêcher l'évangile à tes frères. Et ce vieux-là, pendant des années, a prêché. Et beaucoup d'esclaves sont devenus croyants. Et un jour, il est venu à la fin de sa vie. Et quand cela s'est accompli, il était comme un peu inconscient pendant quelques heures. Et beaucoup de ses frères et blancs sont venus le visiter. Et un groupe était dans le bâtiment alors qu'il s'était réveillé. Et ils lui ont demandé, mais où est-ce que tu étais? Est-ce que tu as dormi? Il dit, non, je n'ai pas dormi. J'étais à l'au-delà. J'étais donc dans la gloire. Et les frères prédicateurs ont dit, mais Sam, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a dit ensuite, je suis entré par une porte blanche en perles. Et il a dit, dès que je suis entré par la porte, j'ai vu le trône. Et je l'ai vu sur le trône. Et des anges sont venus. Et l'homme a demandé, es-tu Sam? Il a dit, oui, je suis Sam. Et ils ont dit, ici est une couronne. Ici est le vêtement. Car tu as fait de grandes choses pour le Seigneur. Tu seras récompensé sur terre. Tu as fait de grandes choses et tu seras récompensé. Et il m'a dit, il a dit aux anges, ne me parlez pas de récompense. Moi, je veux le voir. Je veux le voir. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je pense que tous nous ressentons ainsi, n'est-ce pas? Je ne veux pas de vêtements, je ne veux pas de palais, je ne veux pas de couronne. Je veux simplement le voir. Seulement de le voir, de le contempler, cela me suffira. Oh, comme c'est merveilleux. Oh, pensez à cela. Frère Neville et vous tous. Nous n'attendons pas la fin du monde, nous attendons le retour du Seigneur. Et pour nous, la fin, c'est le retour du Seigneur. Ce sera merveilleux quand il reviendra. Quand nous le verrons, je l'ai vu deux fois, non, je l'ai vu trois fois, le Seigneur, dans une vision. À chaque fois, il avait la même apparence. Il n'y a pas un peintre qui pourrait le dessiner. Oh, il ressemble à un homme, mais malgré tout, vous avez l'impression que s'il parle, toute la création, tout le monde, ça resterait. Jamais un peintre pourrait comme ça peindre le visage du Seigneur. Jamais. Ils ne pourront jamais réussir. Exactement. Oh, comme souvent je pense, j'aurais bien voulu être là alors qu'il disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ou bien alors quand il s'assied et il disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos pour vos âmes. Ou bien alors qu'il parlait à ses disciples. J'aurais bien voulu être là et avoir entendu alors qu'il parlait autrefois, mais je n'étais pas là-bas. Là-bas, c'était Pierre, Jean et Jacques. Mais j'espère qu'un jour, je me tiendrai là quand il dira, tu as bien fait mon serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Et quand nous pensons que ce que Dieu a utilisé pour écrire la Bible, Paul, Ésaïe, Jérémie, tous les apôtres et tous les frères, partout où ils pourraient maintenant se trouver tous, le même Dieu qui était avec eux et qui a pu les utiliser à écrire la Bible, c'est, et qui leur a donné des dons, des prophéties, des signes, des miracles et des prodiges, la même puissance. Ces hommes-là, là où ils sont, nous serons avec eux. C'est le même Dieu que nous servons et qui fait la même chose encore aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça de deviner. Non, nous le savons à 100%. Nous savons qu'il est présent aujourd'hui. C'est ainsi. Si nous... Est-ce que nous ne devrions pas être les hommes les plus heureux et joyeux qui existent sur terre? Qu'est-ce que les autres pourraient encore nous accorder? Cet après-midi, je parlais à une vieille personne, je crois, qui m'a dit qu'il a 88 ans ou bien 90 ans. Mais il n'y a pas longtemps, il s'est converti et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu donc dans sa veste de dimanche. Et je pense que le frère Woods lui a donné donc des habits pour le baptême et je l'ai baptisé. Et il disait alors qu'il était jeune, comment est-ce que les choses sont allées pour lui. Et maintenant, il est un homme riche. Autrefois, et pour 30 dollars, il disait par mois, il a travaillé pour 30 dollars par mois. Et il ne voulait même pas se marier. Et il est resté seul, célibataire. Et quand, comment est-ce qu'il a économisé 25 centimes, il a économisé. Et maintenant, il a presque 90 ans, il a 89 ans. Et il marche encore bien droit. Et même s'il atteint 100 ans, il n'a plus besoin de se soucier de manière financière. Il a assez économisé. Un homme bien, avec un bon cœur, qui fait ce qu'il peut pour les autres. Et je lui ai dit, bien aimé frère, au-dessus de tout, alors que tu avais 87 ou 88 ans, Dieu t'a tendu sa grâce et t'a accordé la vie éternelle. Qu'est-ce que tu peux encore souhaiter d'autre? Et toute cette richesse sur cette terre que nous pourrions avoir, qu'est-ce que c'est? Tout ce que cet homme a, vous savez que vous devez mourir, vous devez laisser tout cela ici. Qu'est-ce que tout cela lui aurait servi s'il n'avait pas reçu la vie éternelle? Donc ne cherchez pas les richesses temporaires de ce monde qui passeront. Non, concentrez-vous sur ce qui demeure éternellement. Attachez-vous à la main inébranlable de Dieu. Oh, j'aime ce cantique. Nous l'avons souvent chanté ici dans la chapelle. Le temps est occupé à tant de choses qui sont corruptibles. C'est peut-être raison. Attachez-vous à la parole de Dieu, à la main de Dieu qui ne change pas. Ma mère aujourd'hui est là-bas. Si j'avais combien de millions de dollars que j'avais pu conserver, qu'est-ce que tout cela m'aurait servi? Et même si ma mère avait des millions, qu'est-ce que cela aurait pu lui servir? Non. Mais elle a reçu le Seigneur. Et ma mère n'avait pas de bien terrestre. Mais nous laisserons tout cela ici. Nous aimons le Seigneur et c'est ça. Il nous procure la vie éternelle. Et ça, c'est la vraie richesse. Et nous le verrons un jour dans la gloire. Nous voulons tous faire un inventaire, chacun de nous. Pensons à notre état et à notre marche et à notre vie pendant que nous entrons en nous-mêmes. Dans quel état je suis avec Dieu aujourd'hui? Dans quelle position? Nous voulons nous examiner nous-mêmes dans notre cœur et dire, Seigneur, si j'ai blessé quelqu'un ou bien blessé une âme ou bien j'ai fait en sorte que quelqu'un se serait éloigné, si j'ai fait quelque chose de faux ou bien dire quelque chose qui ne t'a pas plu, pardonne-moi. Comme c'est écrit dans le psaume 19, nous-mêmes nos pensées doivent lui être agréables. Nous regardons à toi, l'âme, l'agneau de Golgotha, sauveur. Écoute, alors que je t'invoque, ôte tous mes péchés et mes fautes et fais-moi grâce. Et quand j'irai par les derniers pas de l'obscurité, sois celui qui me conduit, sois mon conducteur. Et ôte tous les soucis et les problèmes et essuie mes larmes. Et ne me laisse jamais me dévier, m'éloigner de toi. Garde-moi sur ton chemin et au milieu de ta et dans ta volonté. Âgé ou jeune, qui que vous soyez, que vous ayez 88 ans ou même si vous viviez seulement jusqu'à demain, malgré tout, vous seriez beaucoup qui étaient jeunes et 16 ans et qui ont eu seulement 16 ans et qui ont dû mourir avant même que le soleil se lève. L'âge n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu. Nous voulons maintenant penser à ces choses pendant que nous courbons nos têtes pour la prière. Ô Dieu saint et plein de miséricorde, Père de la vie, nous venons dans ta présence, Dieu Tout-Puissant, pour te remercier de la profondeur de notre cœur pour le privilège que nous avons d'être assis ici aujourd'hui sous le coup de ta parole. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore à l'hôpital et j'ai vu des personnes qui sont inconscientes et d'autres criaient, d'autres pleuraient. Oh Dieu, je prie que tout soit prêt, Père, qu'ils soient prêts à te rencontrer quand ils quitteront cette vie. Je prie, Seigneur, nous pourrions l'être, mais à cause de ta grâce, tu nous laisses en vie pour nous permettre encore de nous réunir, pour écouter ta parole, pour que nous soyons préparés à te rencontrer. Toutes ces choses-là, maintenant, passent par nos cœurs et nos pensées. Et pendant que tu sondes, Seigneur, les motifs de nos cœurs, ôte tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne te plaît pas. Oh, que nos âmes te soient consacrées. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que nous croyons que tu feras encore. Pour la lumière qui aujourd'hui a lui dans la chambre de notre sœur Louise. Oh, je te remercie de ce que tu l'as fortifié par cette expérience. Seigneur, je prie que ce soir tu puisses bénir et que nos âmes soient rafraîchies dans ta présence ici dans la chapelle. Nous te remercions, Seigneur, pour cet endroit. Nous te remercions pour le pasteur, notre frère Neville, un homme d'humilité, un homme humble, un homme d'intégrité, un homme intègre, un homme plein de Dieu. Un homme avec Christ et avec l'Église. Bénis-le et bénis ses parents et sa famille et qu'ils puissent vivre longtemps parmi nous sur terre. Ôte la maladie ou bien éloigne la maladie de leur porte. Ôte la maladie et éloigne la maladie de loin de nos portes. Maintenant, nous te remettons nos âmes sur ton autel. Sonde-nous. Examine-nous. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour lire ta parole, si cela est ta volonté. Et qu'il me soit accordé. Il m'a été accordé de partager le pain de la vie avec les personnes, avec ces hommes. Aide-moi, Seigneur, à dire quelque chose qui pourrait aider une âme affligée. Et aussi une parole de correction. Pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous avons à nous comporter, à nous conduire, et ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons conduire notre vie dans ce temps présent, dans ce monde présent. Si nous voulons avoir notre demeure au ciel, que tu puisses guérir les malades parmi nous, nous te le demandons, guéris les malades. Fortifie ceux qui sont fatigués. Nous te prions pas seulement pour cette assemblée ici, mais aussi pour toutes les autres églises dans le monde entier, là où des prières montent à toi, ô Dieu. Des dix mille personnes, des milliers de personnes t'invoquent et disent, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Sûrement tu exauceras nos prières et un jour tu reviendras. Et si cela devait arriver, de nous endormir avant que tu reviennes. Alors nous savons que les trompettes retentiront et que les morts en Christ vont d'abord ressusciter et ensuite nous tiendrons dans ta directe présence. Nous te remercions et nous attendons ce temps. Nous te demandons, prépare nos cœurs, nous te demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, je voudrais aujourd'hui ne pas parler longtemps, peut-être 30 minutes ou bien 40 minutes, sur un petit sujet. D'abord, je voudrais lire une écriture dans le psaume 105, et je voudrais lire jusqu'au verset 15. Je voudrais que vous puissiez exactement écouter attentivement pendant la lecture de la parole, parce que la parole ne faillira jamais. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Pensez à cela, le psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux autrefois, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Et il disait, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je voudrais prendre ce sujet et le mot respect. Ici, dans cette lecture, David s'est tourné à Dieu. Et il s'agit du respect que nous devons à Dieu, que nous devons avoir devant Dieu. Et il y a une chose que dans chaque cœur je veux avoir écrit, c'est que au-dessus de tout ce qui se passe, de tout ce que Dieu fait, nous devons lui apporter de la crainte devant tout ce que Dieu fait. Nous devons respecter ce que Dieu fait. Il a dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux. Cela a commencé avec Abraham, Isaac, et etc. Et à cause d'eux, il a châtié des rois et des nations. Et il a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Ça, c'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme, c'est de craindre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de respect si vous n'avez pas de crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Et le psalmiste l'a aussi dit, ou bien alors dans les proverbes, il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Et cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu, mais que vous lui apportez du respect et de la crainte. Et si vous respectez Dieu, vous le craignez. Et vous craignez de faire quelque chose qui ne pourrait pas lui plaire, ou bien alors de faire quelque chose qui n'est pas droit devant ses yeux. Comme c'est écrit dans Exode 15, verset 26, vous voyez, je crains ma mère, mes parents, je crains ma femme, je crains l'église, je crains les frères et les sœurs, je crains les serviteurs de Dieu. Je ne veux pas être comme ça une pierre d'achoppement devant eux. Je crains le peuple, je crains les hommes de la ville, de ne rien faire qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Que je ne suis pas un chrétien. Je ne veux rien faire qui pourrait faire penser aux gens que je ne suis pas un chrétien. Avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Dieu exige du respect. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Il exige cela. Et la crainte nous produit le respect. Vous savez que La crainte produit le respect. Vous savez, par exemple, si quelqu'un est un fermier, ou bien il travaille dans un magasin, et personne ne s'occupe de lui, personne ne le respecte, mais quelque chose là. Mais donne-lui un travail en tant que policier, par exemple. Et il a maintenant son uniforme, il a son grade, il a cette décoration. Et vous verrez comment est-ce que les gens de la ville vont se comporter devant lui. Quelque part, ils auront du respect. Ils auront une certaine crainte à cause de ce qu'ils représentent. À cause de ce qu'ils représentent. Vous voyez, et si quelqu'un devient le maire de la ville, ou bien alors, par exemple, le président Kennedy, ou bien quelqu'un de semblable, vous voyez, subitement, il est quelque chose d'autre. Plus l'homme que nous avions connu, plus cet homme-là qui gagnait 40 dollars par semaine, non, une telle personne, les gens ne vont même pas s'occuper. Mais subitement, quelqu'un devient président. Alors, il a mérité qu'on puisse le respecter. Si Dieu est Dieu, alors il a mérité du respect. Il mérite du respect. Nous devons le respecter et venir dans la crainte devant lui. Dieu l'exige. Dieu exige cela pour sa personne, pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu exige du respect pour ses serviteurs. Nous savons qu'ils sont ses serviteurs car il les a confirmés par sa parole et il les utilise, il les prend et il les fait devenir des serviteurs de Dieu et il prouve qu'ils sont ses serviteurs et il réalise, il confirme sa parole par eux. Si vous respectez ses serviteurs, vous respectez Dieu. Vous voyez? Et ensemble, nous respectons Dieu et nous respectons les uns les autres. Est-ce que Jésus n'a pas dit que ce que vous faites à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait? Matthieu 18, versets 5 et 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer avant de devenir un scandale. Regardez, les anges veillent sur eux et voient la face de Dieu continuellement. Verset 10. Nous sommes une partie de Dieu. Dieu donc exige ce respect. Et ensuite, Dieu montre qui sont ses enfants. Et Dieu fait des signes et des miracles qui ont lieu, qui se passent, qui se réalisent, qui se manifestent. Bon, nous allons toucher certaines questions qui sont parmi le peuple de Dieu. Je voudrais commencer, par exemple, avec Noé. Noé avait reçu une révélation de Dieu contre tout ce que la science de l'époque aurait pu prouver. Et malgré tout, il parlait avec Dieu et Dieu parlait avec lui. Et ensuite, il a préparé l'arche, les moqueurs, etc. étaient là qui aussi, tels qu'ils apparaîtront dans les derniers jours, comme c'est écrit dans 2 Pierre 3, ces moqueurs-là se sont moqués et pensaient que Noé a perdu le sens et il est en train de construire une arche. Mais Dieu a apporté le jugement sur ces moqueurs, car ils n'ont pas prêté l'oreille aux messagers de Dieu et ils ne sont pas entrés dans l'arche par sa prédication. Et ensuite, Dieu a envoyé son jugement divin. D'abord, Dieu avait accordé une préparation pour tous ceux qui voulaient venir. Et ensuite, quand ils n'ont pas voulu venir, il n'y avait qu'une seule chose qui leur restait. C'est alors qu'ils n'avaient pas accepté les préparations de Dieu. Alors, il y a une seule chose qui leur restait, c'était le jugement. Vous pouvez faire que deux choses. Ou alors la miséricorde ou alors le jugement. L'un de ces deux choses-là, vous l'aurez. C'est la même chose encore aujourd'hui. Ou alors la miséricorde de Dieu ou alors le jugement de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dieu crée toujours un chemin pour s'échapper, pour tous ceux qui veulent s'échapper. Et celui qui ne veut pas va devoir rencontrer le jugement. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que ce sont les hommes eux-mêmes qui choisissent ce chemin. Ils prennent eux-mêmes leur propre cette décision. C'est la même chose encore aujourd'hui. Ou alors nous acceptons le chemin de Dieu pour échapper, ou alors nous prenons le chemin de Dieu pour le jugement. Ne pouvez-vous pas reconnaître aujourd'hui tout ce que vous avez choisi, le chemin pour échapper, comme c'est écrit. Car tous ceux qui refusent de prendre le chemin pour échapper vont devoir rencontrer le chemin du jugement. Il y a une autre chose encore dont je voudrais parler. C'était un grand prophète puissant appelé Moïse. Le peuple d'Israël aurait dû comprendre, selon les Écritures, que Dieu allait les délivrer et les sortir de l'Égypte. Mais dès que Dieu était prêt à détendre sa main et à faire quelque chose, ils n'avaient pas de respect pour lui et ils le rejetaient. Ils ont dit, est-ce que tu vas nous frapper comme tu as frappé l'Égyptien? Ils n'avaient pas de respect pour le serviteur de Dieu. Et ils ont dû rester 40 ans de plus dans la captivité parce qu'ils ont rejeté d'accepter le sauveur qui était venu. C'est ça qui les a fait rester dans les liens de l'Égypte. Vous voyez, le temps était là, mais ils sont restés encore 40 ans plus longtemps parce qu'ils ont rejeté le chemin préparé de Dieu pour s'échapper. C'est ce que je veux dire. C'est la raison encore aujourd'hui. La même chose se répète. Ils ont rejeté de choisir le chemin pour s'échapper. Comme nous avons lu d'Abraham concernant l'alliance, Dieu avait promis qu'il fera cela et Dieu va toujours accomplir ce qu'il a dit. Il va les appeler à sortir. Il avait dit, mais il y a une autre génération qui devait passer. Et quand ils n'ont pas reçu le message, car c'est 40 ans plus tard que Moïse est venu dans une autre génération. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? S'ils n'acceptent pas, alors Dieu laisse la génération là mourir et il laisse apparaître une autre génération. C'est ainsi qu'ils l'ont rejeté. Nous constatons que la prochaine génération dans laquelle Moïse était venu, Moïse craignait d'aller encore en Égypte. Il avait maintenant 80 ans. Et 40 ans étaient passés. Et ensuite, il a parlé à Dieu dans le buisson ardent et il a dit, qu'est-ce que je dois leur dire? Ils me demanderont qui t'a envoyé. Est-ce que je vais leur dire, est-ce que je leur dirai le Dieu de vos pères? Ils me diront, mais qui est le Dieu de nos pères? Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, Seigneur a dit, dis-leur, je suis t'a envoyé. Et je suis le je suis. Et qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, c'est une verge, un bâton. Et il a jeté par terre, il est devenu un serpent. Et il a mis sa main dans sa poche et elle était frappée de lèpre. Et il a relevé, et il a ressorti, elle était de nouveau guérie. Le Seigneur a dit, va et montre tous ces miracles là devant le peuple. Et c'est ainsi qu'ils reconnaîtront après ces choses que j'étais envoyé en tant que sauveur. Oh frère, Dieu le fait toujours de nouveau. Dieu accorde des signes surnaturels. Et maintenant, quand Moïse était entré et qu'il avait convoqué le peuple et qu'il a fait tous ces miracles, tout Israël a cru, chacun individuellement. Et il est allé dans le palais et il a proclamé la délivrance. Et Dieu a laissé venir le jugement sur Pharaon parce qu'il ne voulait pas les laisser aller. C'est étrange. Ils avaient vu tous ces signes et ces miracles. Et ensuite, ils sont arrivés à la mer Rouge. Et ils ont constaté que le même Dieu qui a fait tous ces miracles, que le même Dieu était aussi capable de frayer un chemin par la mer Rouge pour qu'il puisse s'échapper. Parfois, nous faisons des erreurs. Quand une maladie nous touche, nous arrive, et que des problèmes nous arrivent, des difficultés sont devant nous, alors nous tombons. Jeune croyant, on se moque de lui. On dit, oh, tu joues un rôle de saint. Et ensuite, cela les blesse et le doute vient au lieu de demeurer ferme. C'est justement le temps dans lequel vous deviez estimer et respecter le message et le messager. C'est ainsi que vous devez honorer Dieu. Mais Moïse a dit, je viens de faire 10 miracles. Dieu a déjà fait 10 miracles et maintenant, est-ce qu'il ne le fera pas encore? Bien sûr.
Qu'est-ce qui doit encore arriver pour que vous puissiez croire enfin? Et il a élevé sa verge sur la mer. Et un tourbillon est venu, une tempête est venue. Et l'eau s'est divisée. Et dès qu'ils étaient de l'autre côté de la mer, ils ont commencé encore à faire des reproches et à murmurer. Encore la même chose. Et Dieu a laissé tomber pleuvoir du pain de l'eau. Du pain du ciel. Et tout de suite après, ils ont dit, nous n'avons pas d'eau. Un reproche l'un après l'autre. Ils faisaient que se plaindre et murmurer. Et vous diriez peut-être, mais peut-être qu'ils étaient les inconvertis. Peut-être qu'ils l'étaient. C'était un peuple mélangé qui était aussi sorti avec eux. C'est écrit dans Nombre 11. Mais je voudrais vous rappeler cela. Si Dieu envoie un message et le confirme, et un messager et le confirme par des signes et des miracles qu'il est l'homme envoyé de Dieu, alors c'est à vous d'obéir au messager, bien sûr. Si Dieu confirme le messager par des signes et des miracles, nous devons obéir au messager. Et nous devons avoir du respect devant ce messager. Regardez Josué et Caleb. Ils se sont tenus là. Quoi que Moïse faisait, ils étaient une partie de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il faisait. Bien sûr, ils étaient une partie de ça, car ils savaient que c'est le messager de Dieu. Et un jour, nous avons constaté que même Myriam, une prophétesse, et Aaron, le grand sacrificateur, qu'ils se sont moqués de la femme de Moïse parce qu'elle était une Éthiopienne. Et ils ont dit, mais il n'y a pas assez de femmes là pour que tu puisses te marier. Pourquoi tu as dû prendre celle-là? C'était pas le choix de Dieu. Ça a été le choix. C'était pas le choix de Moïse. C'était le choix de Dieu pour Moïse. Et quand ils se sont moqués de lui, alors Dieu s'est mis en colère. D'une manière qu'il a frappé Myriam, la prophétesse de lèpre, la propre sœur de Moïse. Car c'était pas le choix de Moïse. C'était le choix de Dieu pour Moïse. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle, une prophétesse. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est moquée d'une manière qui n'est pas correcte du messager de l'heure, d'autrefois. Et même Aaron aussi, le grand sacrificateur, vous voyez, le frère de Moïse, bien sûr, il était avec elle. Et quand ils ont vu que la sœur, et quand Aaron a vu que sa sœur est frappée de lèpre, il est allé à Moïse, il a dit, est-ce que tu veux laisser mourir ta sœur comme ça? Alors Moïse est tombé sur sa face dans la tente d'assignation et a commencé à pleurer et à invoquer Dieu et à prier pour sa sœur. Et l'Esprit de Dieu est descendu et a dit, appelle Aaron et Myriam pour qu'ils puissent se tenir là devant la tente d'assignation. Oh, Dieu exige du respect. Dieu envoie son message, prêtez l'oreille à ce message. Ayez du recueillement et de la crainte. Ne dites pas ça, c'est un rôle de saint, etc. Laissez le monde dire ce qu'il veut. Vous donnez du respect à ce qui vient de Dieu. À ce qui vient de Dieu. C'est ainsi que Myriam s'est tenu là. Et Aaron s'est tenu là. Frères et sœurs se tenaient là. Et quand ils ont apparu devant Dieu, alors Dieu a dit, pourquoi est-ce que vous ne craignez pas Dieu? Il a dit cela au grand sacrificateur Aaron et à la prophétesse Myriam. Il a dit, si un homme est parmi vous et qu'il est spirituel et qu'il est prophète, alors moi le Seigneur, je me révèle à lui. Je parle à lui dans des songes et par des visions. S'il est spirituel, bien si c'est un prophète. Mais avec mon serviteur de Moïse, ce n'est pas ainsi. Avec mes propres lèvres, j'ai parlé à ses oreilles de face à face. Et vous n'avez pas peur et vous ne craignez pas Dieu et vous murmurez. Si vous parlez de Moïse, vous parlez de moi. Si vous ne respectez pas Moïse, si vous ne pouvez pas le respecter, vous ne pouvez pas me respecter. Et que je ne me suis pas manifesté parmi vous et je n'ai pas prouvé qu'il est mon serviteur et que vous n'avez pas de crainte et de respect. Qu'est-ce qui se passe aussi avec les gens aujourd'hui, les croyants aujourd'hui? Ils n'ont pas de respect réel de tout leur cœur. Pas d'honneur. Bon. Il a dit, parce que vous avez fait ceci, c'est peut-être la raison que tu as reçu la lèpre. C'est peut-être la raison que les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. vous aurez dû savoir que c'est mon serviteur et vous le savez. Et si vous dites quelque chose contre lui, c'est contre moi que vous dites cela. Moïse a prié pour leur vie, pour qu'elle soit sauvée. Et Dieu a sauvé sa vie. C'est vrai qu'elle n'a pas vécu longtemps après, elle est morte. Mais elle est restée d'abord un moment à l'extérieur du camp, pour un certain temps. Dieu ensuite l'a guérie. Mais ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Vous devez respecter ce que je fais. C'est ce que Dieu voulait dire. Et si autrefois, c'était la disposition de Dieu, la position de Dieu, c'est aujourd'hui sa position. Dieu veut que nous puissions respecter ce qu'il fait. Il exige cela. Alors la seule possibilité, c'est de reconnaître ce qu'il fait. Ou alors vous le respectez, ou alors vous allez devoir payer. Il y a un homme qui me disait il n'y a pas longtemps, une pauvre personne. Il était ici au marché. Il avait eu une bruit. Il était tombé, il était un luthérien. Et il ne pouvait pas aller à l'église. Et on a pris le taxi. Et ça coûtait 80 centimes aller-retour. Et il avait prié la prière du Seigneur. Et après, le voisin lui a demandé, mais où est-ce que tu vas avec le taxi? Il a dit, je vais au souper du Seigneur. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est le souper du Seigneur? Il a dit, mais moi, j'ai... Alors, il dit au voisin, mais nous allons prendre du pain et puis du vin. Et puis, alors il dit au croyant, mais à celui qui avait parlé du souper du Seigneur, il dit, mais moi, ici à la maison, j'ai mon whisky et j'ai mon pain. Et c'était trois jeunes dans l'hôtel. Et ils ont pris comme ça une tranche de pain et puis ils ont pris du whisky. Ils ont dit, bon, maintenant nous allons fêter le souper du Seigneur. Ils se sont moqués d'une église pentecôtiste. Et moins de trois mois plus tard, ils sont morts. Et deux sont morts et le troisième a abouti dans une maison de fous. Vous ne pouvez pas vous échapper si vous ne respectez pas ce que Dieu fait et si vous ne respectez pas Dieu. Si vous ne croyez pas, taisez-vous et éloignez-vous de ça. Mais ne vous moquez pas. Ou bien alors, venez dans la crainte et respectez cela. Ne vous moquez pas de personnes qui adorent Dieu en esprit. Laissez-les tranquilles. Je me tenais et au coin d'une rue il y a des années passées et je prêchais. J'étais jeune. Il y a une femme qui est venue. Je prêchais dans la rue. Et je la connaissais, je savais que son mari était catholique, une femme très très belle. À peu près, elle avait peut-être 22 ans. Je la connaissais en tant que fille déjà. Elle vivait ici dans la ville. Et elle est venue, elle m'a dit... elle m'a dit, je ne donnerai pas à ma plus belle vache la religion de Branham. Et le même soir, Elle a été livrée à l'hôpital en catastrophe. Elle avait le cancer. Elle était en train de mourir à l'hôpital. Et son mari est venu pour m'appeler. Il était catholique. Et il a dit, viens vite. Prie pour ma femme, prie pour ma femme. Elle est en train, toute la soirée, elle a fait qu'appeler ton nom. Elle a fait que t'appeler. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai quitté l'assemblée, je suis allé vite à l'hôpital et j'ai rencontré les infirmières et elles m'ont dit qu'elle est déjà morte. Et son mari me dit, prie quand même pour elle, quoi qu'elle soit morte. J'ai dit, priez après qu'elle soit morte. Et ensuite, je suis allé. C'était une femme très belle et ses cheveux gris, bien peignés. Et la sœur, l'infirmière a dit, Billy, elle est morte dans une telle douleur terrible. Elle a crié ton nom, appelé ton nom. Elle a dit, dites-lui qu'il puisse me pardonner pour ce que j'ai fait. Et ses yeux-là même n'étaient même pas fermés entièrement. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un meurt? C'était une mort terrible. ses yeux étaient à moitié ouverts. Et l'infirmière m'a dit, elle est morte dans une douleur terrible. Elle a souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a méprisé et elle a méprisé l'évangile que je prêche. Alors que Dieu avait fait des signes et des miracles. Alors que j'étais à New Albany, j'avais parlé à un pécheur et je l'ai conduit à Christ. Une grande personne dans un garage. Et l'un de mes amis était là et son beau-fils. Et je prêchais. C'était vers midi. Et j'ai parlé de Dieu à lui. Et partout, c'est ainsi que j'ai utilisé mes pauses de midi pour conduire des âmes à Christ. Et il m'a dit, Mr. Branham, j'étais moi-même jeune autrefois, mais il m'a dit, Mr. Branham, maman avait une religion de cœur comme vous. Et il a commencé à pleurer. Et je lui ai demandé, depuis quand est-ce qu'elle est décédée? Reparti à la maison, il m'a dit depuis des années. Et il m'a dit, Dieu a exaucé ses prières et exauce maintenant. Et quelqu'un d'autre est venu et a dit, Billy, si toi tu veux venir dans mon garage, tu peux venir à chaque moment, mais ta religion ne l'amène pas avec toi. Je me suis retourné et j'ai dit, là où Christ n'est pas la bienvenue, moi je ne veux pas non plus être la bienvenue. Il a dit, mais écoute, sois un peu normal. Et dans mon cœur, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il va récolter ce qu'il a semé. Ça aurait été mieux pour lui qu'il reçoive une meule et qu'il coule dans la mer. Et le même jour, son beau-fils, en faisant marche arrière pour rentrer dans le garage, l'a pas vu et l'a collé au mur, l'a écrasé avec la voiture et il était mort. Vous voyez, Dieu exige du respect, il exige. Et Myriam, la sœur de Moïse, aurait dû savoir mieux faire que ça. Et Aaron aurait dû savoir mieux faire que ça. Ils auraient dû savoir que Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu pour faire ce qu'il faisait. C'est ça. Un prédicateur baptiste m'avait écrit une lettre il n'y a pas longtemps. Oh, si il ne pouvait pas me... S'il pouvait me m'ôter la vie de forêt. Et il disait, un homme qui est paresseux comme toi et un prédicateur qui pense être comme un Élie et qui reste assis à la maison. Et Billy lui a répondu. Et moi je disais, mais écoute Billy, tu dois d'abord me laisser lire la lettre avant de répondre. Et ensuite Billy a écrit, c'est pas mon papa qui répond, mais c'est moi qui réponds. Tu dis que mon papa est à un ministère comme Élie et va dans la forêt pour passer du temps là-bas et reste dans la forêt au lieu de prêcher. Et il lui a écrit, sais-tu que même Élie est resté trois ans et demi sans prêcher? Hein? Oui. Il y en a qui s'arrêtent à des choses, ils veulent tous aller prêcher en leur propre nom. Un homme doit être conduit par le Saint-Esprit et alors on doit respecter ça. Il n'y a pas longtemps, une âme précieuse ici dans la ville demandait où est Billy. J'ai dit, mais il est au Canada. Et ils ont dit, mais est-ce qu'il est déjà reparti chasser? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont dit, bien sûr, il ne fait rien d'autre. Donc ce sont des gens qui ont demandé après moi. Ils ont dit, je suis encore au Canada. Ils ont dit, ah oui, donc il ne fait rien d'autre de toute façon. C'est sûr, il allait chasser. Mais les gens ne savent pas que j'allais dans la puissance du Saint-Esprit selon une vision du ainsi du Seigneur qui m'avait été accordée. Et le Seigneur m'avait dit d'aller là-bas. C'est pour ça que j'étais allé. Qu'est-ce que ces gens feront le jour du jugement? Qu'est-ce que ça m'aidera d'aller au lit de cette personne pour prier pour lui? D'abord, il faut qu'il croie. Et qu'il fasse confiance en vous, afin que vous puissiez prier pour vous, pour lui. Mais si les gens ne peuvent pas croire, même si ils vous frappent sur le pôle, et malgré tout, vous savez qu'ils ne vous croient pas. Ils ne croient pas. Même s'ils vous frappent sur le pôle. Vous ne pourrez rien faire pour eux. Bien sûr. Bien sûr qu'ils vous appellent pour que vous puissiez prier pour eux. Mais vos prières à ce moment-là ne servira à rien pour eux. Parce qu'ils n'ont pas de respect. Vous devez croire. Ils n'ont pas de respect pour vous. Oh, si une âme peut vraiment croire, vous allez voir ce qui se passera. Vous devez respecter cela. Par exemple, Jézabel, dans les jours d'Élie. Comment est-ce qu'elle a méprisé Élie? Élie était en fait son pasteur, bien sûr. Oh, ça, elle voulait jamais l'accepter. Lui, en tant que pasteur, non, non, non. Elle était une athéiste ou bien comme ceux qui adorent des idoles. Et elle avait ses propres prêtres et sacrificateurs. Mais malgré tout, Élie était son pasteur, bien sûr. Est-ce qu'il ne lui a pas dit tout et il ne lui a pas cité ses péchés, nommé ses péchés, mais elle n'a pas accepté malgré tout. Elle l'a méprisé. Elle le haïssait, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a donné au chien pour qu'elle puisse servir de nourriture au chien. Parce qu'elle a méprisé le message de l'heure. Dieu exige du respect. Vous devez avoir ce respect. Si vous avez reçu une fois quelque chose de Dieu, vous allez le respecter et vous le ferez de tout votre cœur. Mais elle a méprisé Dieu et ses prophètes. Elle savait qu'Élie était un prophète. Elle n'avait rien qu'elle aurait pu cacher devant Élie. Chaque vision qu'il recevait était parfaite. Parfaite. Mais bien sûr, il prêchait. Mais chaque dénomination, tout, il a condamné toutes ces choses, de la plus petite jusqu'à la plus grande. Il a condamné tout le royaume, etc.
Mais ils ont dû reconnaître qu'il était un prophète. Bien sûr, même Akab a essayé de dire que c'était la faute d'Élie que la sécheresse soit venue. Et il a dit, et Élie avait dit que il n'y aura pas de rosée ni de pluie, si ce n'est qu'ils le disent. Vous voyez? Et Akab, ce vieux hypocrite, et il a dit, ah, le prophète, c'est la faute du prophète que nos enfants maintenant doivent souffrir. Ils n'ont pas à manger. Alors que tout ce qu'Élie a essayé, c'était de ramener les hommes à Dieu. Bien sûr, et tous les autres l'ont influencé. Est-ce que vous pouvez croire à un tel homme qui a fait ceci et qui a fait cela? Oh, regardez un tel hypocrite. Sûrement qu'ils ont dit, ah, ce n'est rien que de l'hypocrisie. Et ce n'est rien que un liseur de bonne aventure qui ferme le ciel et qui dit que la pluie ne tombe pas. Et que ça, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'était la volonté de Dieu. Ils ont dit, comment vous pourrez croire à un tel homme qui fait de telles choses? Vous devez voir et comprendre les choses. Vous devez respecter Dieu. Ça n'a pas d'importance ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Vous voyez, les enfants souffraient. Les hommes souffraient. Le bétail mourait. Les moutons mouraient. Il n'y avait plus d'eau nulle part. Et les nuits froides et pesantes. Et le soleil pendant le jour très chaud. 3 ans et 6 mois. Et Élie était assis là ou bien alors se tenait là et a dit, pas de rosée ni de pluie tombera si ce n'est à ma parole. Oh, il le haïssait. Et quand Akab l'a trouvé, il a dit, c'est toi qui amènes tous ces problèmes en Israël. Il a dit, moi, c'est pas moi, c'est toi qui a causé tous ces problèmes en Israël. C'est toi, c'est pas moi. Vous voyez, même Akab n'avait pas de respect devant lui. Et comme autrefois, dans les jours d'Élysée, les enfants, c'était des adolescents qui avaient été instruits, mais ils pensaient que Élie n'avait pas été enlevé et que Élysée le cherche partout. Et a pris sa place, il était le messager, il était donc le message. Et Élie avait été en fait enlevé, réellement. Et il est passé par Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville. Ils se moquèrent de lui et lui ont dit, monte, monte chauve, toi chauve. Pourquoi est-ce que tu n'es pas monté avec Élie? Voyez, il ne croyait pas qu'Élie était monté. Il avait été enlevé, il ne savait pas où est-ce qu'il était. Ce n'était pas seulement le manque de respect devant l'homme, mais aussi devant le message. Et il était celui qui était venu après Élie en tant que prophète. Et il avait la même onction, le même esprit, la même puissance était sur lui. Et il avait fait la même chose que Élie avait fait. Alléluia. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Vous voyez, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est ainsi qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté Élisée parce que Élisée avait cru au ministère d'Élie. Et le même esprit était sur lui. Et il s'est retourné. Et il a prononcé la malédiction sur les enfants. Et des ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. Vous voyez, il était cet homme qui avait de l'autre côté du Jourdain pris le manteau et frappé le Jourdain. Et il a traversé le Jourdain à sec. Vous voyez, partout on a su dans le pays qu'il était l'homme de Dieu. Et malgré tout, il parlait l'un avec l'autre. Oh, qui c'est cette personne? C'est qui celui-là? Il le méprisait. Cet homme-là qui dit que l'homme de Dieu avant lui est monté au ciel. Est-ce qu'il a vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Qui peut le dire? Vous voyez, bien sûr, ils ne le croyaient pas. Ils ont dit, nous avons vu aucun char céleste ou bien aucun cheval céleste, etc. Nous n'avons rien vu venir prendre Élie. Et maintenant, vous voulez dire qu'il a été enlevé. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils disent sur Jésus. Ils disent, oh, autrefois, on a dit que des gens étaient venus pendant que les soldats dormaient et ils ont pris... Ses disciples ont pris son corps. Et ici, Élie avait été enlevé. Et ce jeune prophète, il est passé par la ville. Et en tant que jeune homme, il avait déjà perdu ses cheveux. Et ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu n'es pas monté toi, chauve, vieux chauve? Et c'est ainsi qu'ils lui ont manqué de respect. Et Élie s'est retourné dans la puissance de l'esprit et a prononcé la malédiction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deux ours sont sortis de la forêt et ont déchiré 42 adolescents. Ils n'avaient pas de crainte, ils n'avaient pas de respect. Vous devez respecter Dieu. Et les enfants, les adolescents pensaient, oh, ma mère et mon père ont parlé mal, ont dit cela sur lui. Nous aussi, nous pouvons nous le permettre. Qu'est-ce que nous savons déjà? Nous savons mieux les choses. Que cela soit ainsi ou pas, je vous le dis, si vous ne savez pas, taisez-vous. Si vous ne savez rien, restez calme. Ne parlez pas mal. Et ils disent, on va aller dans la ville, il y aura une réunion dans la rue. Et alors ils viennent. Mais c'est ainsi que les enfants, on leur apprend cela déjà à la maison. Le manque de respect, les parents déjà parlent mal, les enfants écoutent, alors les enfants aussi parlent mal de celui-ci, de celui-là. Et ils disent, toi chauve. Hein? Déjà quand il y a des réunions dans la rue, on voit comment est-ce que les enfants se comportent. Hein? Quel âge il avait? Et nous, est-ce que nous devons le croire? Et ce qu'il dit, qu'est-ce que c'est en fait? C'est seulement un homme avec lequel on devrait se moquer, exactement comme Élie. Il ne vient pas non plus dans notre église. Et peut-être quelque part, il distribue des traités, il rend des témoignages. Il ne croyait pas. C'est ainsi que cela a été dit aux enfants à la maison. Si les enfants avaient été correctement enseignés, on leur avait enseigné à la maison le respect et la crainte, alors ils seraient allés devant le prophète de Dieu et ils auraient dit, prie pour nous. Mais ils ont été influencés de parler l'un avec l'autre, de celui-ci, de se moquer de celui-là et de parler de cette manière. C'est la même chose encore aujourd'hui. Ils se moquent quand il y a des réunions dans les rues, quand il y a un prédicateur qui prêche l'évangile dans la rue. Ils se moquent de lui. Élisée a dû les maudire au nom du Seigneur. Pas à cause des enfants, mais à cause aussi des parents qui ont laissé les enfants comme ça aller et qui ne leur a pas appris le respect devant les adultes. Deux ours ont déchiré 42 adolescents. Dieu exige du respect devant ses prophètes, devant ses serviteurs. Celui qui ne respecte pas ses prophètes, ses serviteurs, alors ils auraient dû se taire et ne rien dire. Mais ils étaient obligés de dire quelque chose, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux, vous voyez? Nous voulons maintenant prendre ceux qui ont respecté Dieu et ses serviteurs. Par exemple, avec Élisée, cette Tsunamite, elle était de Sunem, mais elle croyait en Dieu. Et elle avait vu qu'un homme était venu dans la ville, elle avait écouté sa prédication, elle avait vu ce qui s'était passé. Et un jour, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. On pourrait dire que bon, elle a perdu, elle avait un fils qu'elle avait perdu. Bon, on ne sait pas, c'est peut-être une histoire, c'est une histoire comme ça que je dis. Mais cette femme ici, quand elle a reconnu, en tout cas, elle a dit qu'elle n'avait pas de fils, quand elle a reconnu qu'il était un saint homme, et elle a reconnu quelque chose qui s'était passé. Elle le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle a reconnu qu'elle avait été envoyée de Dieu. Et au lieu de lui manquer du respect, elle l'a traité avec respect. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Tu sais, je vois, il est âgé, il est vieux et il voyage beaucoup. Et il fait ce qu'il peut pour servir le Seigneur. Et il a qu'un vase avec de l'huile et un manteau avec des peaux de mouton. Je te demande que nous puissions faire pour lui une chambre haute et que des serviteurs puissent venir pour lui faire une chambre, parce que je reconnais qu'il est un saint homme de Dieu, un homme de Dieu. Oh, quelle différence ici. Son mari était d'accord, bien sûr, et il a dit, moi aussi j'ai reconnu qu'il était un saint homme de Dieu. J'ai observé ses paroles et je les ai reçues de mon cœur. Il est un homme de Dieu, ça nous allons le faire. Et c'est ainsi qu'ils ont fait cette chambre pour que quand ils reviennent du voyage, ils puissent venir. Et ils ont lavé ses pieds et ils ont pris soin de lui. Bien sûr, cela a fait du bien à son âme alors qu'il voyait le respect. Et ensuite, il a dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite, demande-lui ce qu'elle veut. Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple, j'ai besoin de rien. Le verset 13 de 2 Rois 4. Mais Géasi a dit, elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle. Et je peux bien m'imaginer que le prophète, donc, s'est couché sur le lit, dans la chambre qui lui avait été préparée. Et il s'est lavé et il s'est préparé. Ensuite, il a reçu une vision du Seigneur. Et il a dit, va et appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Car j'ai quelque chose à lui dire. Car elle a respecté Dieu, va et dis-lui qu'elle puisse venir. Elle est venue et se présenta à la porte. Élisée lui dit, ainsi dit le Seigneur, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. À peu près, et exactement tel qu'il a dit, à peu près après un an, elle a eu un fils, alors que l'enfant avait à peu près 12 ans et qu'il était avec son papa sur le champ. Le soleil l'a frappé et il est mort dans les bras de la maman. Est-ce que cela l'a découragé? Non. Alors elle a dit, nous voulons aller
prendre l'enfant et aller au prophète de Dieu. Ça, c'est avoir du respect. Et son mari a dit, mais où est-ce que tu vas aller? Elle a dit, je vais à l'homme de Dieu. Oui, que ce soit le sabbat, que ce soit la pleine lune, peut-être qu'il ne sera pas là, bon, c'est pas, ça ne fait rien, mais nous voulons nous préparer pour aller à l'homme de Dieu. Et ils sont allés par les montagnes et tout, c'était dur. Et Élie est sorti et il a dit, elle ressemble à la tsunami, sûrement qu'elle a des problèmes. Va à sa rencontre. Et Dieu ne m'a rien dit de ce qu'elle a. Vous voyez, Dieu n'a pas toujours besoin de dire tout à son serviteur, même à ses prophètes. Dieu ne dit pas tout. Dieu fait ce qu'il veut faire. Il est Dieu. Et Élie n'a pas dit, oh Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit qu'elle allait venir, etc. Et c'est qu'elle a... Non, Élie n'a rien dit. Tel que c'était, il n'a pas dit, fait des reproches à Dieu. Il respectait Dieu. Vous voyez? Et la tsunami n'est pas venue. Il n'a pas dit, quoi? Tu es un homme de Dieu? Toi sûrement pas. Non, non, non. Car si elle était venue comme ça, rien ne se serait passé. Elle a dit, nous allons voir ce qui va se passer. Elle n'a pas dit ça. Non, elle est tombée à ses pieds. Et elle a adoré Dieu. Et Dieu lui a révélé ce qui s'était passé. Et d'abord, Élisée a dit à son serviteur Géasi, prends le bâton et va vers elle. Mais elle a dit, non, 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 je veux aller au serviteur de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à que Dieu ait répondu. Et Élisée est resté. Il est allé dans la chambre où l'enfant était. Et dans la chambre, il marchait à droite et à gauche, car c'était une femme de recueillement qui respectait l'homme de Dieu. Elle savait qu'il était un homme de Dieu. Et Élisée est resté près de l'enfant jusqu'à que Dieu lui donne une vision. Et ensuite, l'enfant a été ramené à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté l'homme de Dieu. Amen. 2 Rois 4 à partir du verset 18. Qu'est-ce qui s'était passé avec Martha? Elle a, dans le Nouveau Testament, elle a toujours pensé à ce qu'elle devait faire. Marie, elle voulait toujours écouter la parole de Dieu. Elle s'asseyait au pied du Seigneur pour écouter. Pour elle, ce n'était pas important. Est-ce que les coussins sont changés? Est-ce que... les plantes sont arrosées, est-ce que la maison est propre? C'était pas son problème. Elle voulait écouter la parole du Seigneur. Et Martha s'occupait de faire un repas pour le midi et elle s'occupait des choses extérieures pour que tout soit en ordre, tout soit propre. Elle était en souci pour ça. Elle aussi, elle voulait faire quelque chose pour Jésus de sa manière. Marie aussi de sa manière. Martha de sa manière pour Jésus. Beaucoup parlent contre Martha. Ils disent qu'elle aurait dû montrer plus plus s'intéresser. Non, 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 un moment. Non, non. Il y a, vous voyez qu'il y aura un jour qui viendra où Martha aussi, on parlera d'elle. Regardez, alors que Lazare mourut, son frère, c'est elle, Martha, qui a envoyé pour qu'on puisse aller chercher le Seigneur Jésus. Et d'abord, il n'est pas venu. Et elle a de nouveau envoyé et il n'est pas venu. Et ensuite, quand il vint, c'est elle qui est allée à sa rencontre. Et elle n'a pas dit, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu alors que je t'ai laissé appeler? Mon frère était malade. Nous avons abandonné notre assemblée, nos églises, nos organisations. Nous avons fait tout pour te suivre. Nous croyons que tu es un homme de Dieu. Mais... maintenant que nous avons des problèmes, comment est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, nous, en tant que trois orphelines qui sont restées, nous qui avons pris soin de toi, et tel que nous avons pris soin autrefois du temple, et nos pères étaient attachés au temple, et maintenant nous t'avons cru, et en tant que et aussi ton enseignement. Et tu es un prophète, tu es le fils de Dieu.
Comment est-ce que nous pouvons encore maintenant te croire si tu n'es même pas venu alors que nous t'avons appelé? Quand nous avions eu besoin de toi, tu n'es pas venu. Hein, nous avions eu des problèmes et tu n'as pas considéré cela. Et nous avons envoyé deux fois et tu ne t'es même pas occupé. Pourquoi est-ce que tu as fait ceci et cela? Non. Si Martha avait parlé comme ça dans Jean 11, rien ne se serait passé. Lazare ne serait pas ressuscité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est vainque. Et elle est allée à sa rencontre, elle est tombée à ses pieds et elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a respecté le Seigneur. Elle était dans la présence de Dieu et elle a respecté cela. Elle a appelé Seigneur. Elle a dit, Seigneur, pas j'ai envoyé maintenant. Non, il n'y avait aucun reproche dans son cœur. Tout était oublié. Maintenant, tu es ici. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il a dit, ton frère va ressusciter. Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Mais il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra pas. Et elle a dit, je crois, tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et encore maintenant, pas Seigneur, tu aurais dû faire ceci et faire cela. Non, maintenant, tout ce que tu demandes, Dieu l'exaucera. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? 9. Non. On n'a pas dit, oh, Élisée est encore allé à la chasse, ceci et cela, lui faire des reproches. Non. Quoi qu'il faisait, il était toujours pour eux l'homme de Dieu. Martha, elle n'a même pas regardé aux circonstances. Elle a regardé au Seigneur. Et encore maintenant, elle parle et elle dit, ce que tu demandes, cela va s'accomplir. Quoi que tu dis, cela va s'accomplir. Et il a dit que ton frère ressuscite. Et il a demandé, où est-ce que vous l'avez enseveli? Et ils sont allés à la tombe. Et il a appelé Lazare à sortir alors qu'il était depuis 4 jours mort. Parce que la sœur de Lazare avait du respect devant lui. Si vous respectez, vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez au moins le ministère qu'il a de Dieu et le service qu'il fait. Si un prédicateur vient, ou bien votre pasteur, respectez-le toujours. Parfois dans des assemblées, j'ai vu des gens parler du prédicateur. Tout ce qu'ils ont dit, toutes sortes de choses ils ont racontées sur lui. Ils ont dit, ah, il ne fait rien de bon, il ne peut rien faire. C'est un bon à rien. Je ne dis pas cette assemblée ici, mais l'assemblée dans laquelle j'étais. Vous devez aimer votre pasteur. Et aimer celui qui prêche. Vous devez savoir que c'est un homme aussi. Mais que c'est Dieu qui l'a établi. Comme en tant que pasteur, le Saint-Esprit l'a placé comme surveillant. Et vous devez, de cette manière-là, le respecter. Ça n'a pas d'importance ce que le pasteur a fait. Si dans votre cœur, vous ne le respectez pas en tant que serviteur de Dieu, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Et celui qui ne me reçoit pas ne peut pas non plus recevoir celui que j'envoie. Vous voyez, il vous dit que Dieu est votre Père et vous ne me recevez pas. Vous devez avoir du respect, accepter, recevoir, croire. Martha croyait. Il y a quelque chose que déjà ce matin, un peu j'avais voulu souligner, je soulignais. Alors que la femme vint et que sa prière avait été rejetée, Il parlait aux Juifs et elle était une païenne. Elle ne savait pas comment est-ce qu'elle devait s'adresser à lui, mais elle avait un problème. Et elle savait qu'il est le Fils de Dieu. Et elle le croyait. Et elle savait que si Dieu a répondu la prière d'autres, il va aussi pouvoir répondre sa prière. Et c'est ainsi qu'elle avait accepté la parole de Dieu. Elle a dit que si ça c'est pour les Juifs, c'est aussi pour les païens. C'est ainsi qu'elle a pensé en elle. Et Jésus l'a examinée, l'a testée. Et elle a dit, Seigneur, s'il te plaît, fais attention. Elle a dit, toi, fils de David. Elle avait vu comment est-ce que les Juifs l'avaient appelé fils de David. Mais pour elle, il n'était pas le fils de David. Un Juif a pu dire cela, mais elle était des nations, elle était païenne. Mais elle voulait avoir accès à lui. Dans Matthieu 15, à partir du verset 21. Elle n'a pas seulement dit cela comme ça. Elle avait voulu faire ce que les autres avaient fait. Et elle avait dit, fils de David, aie miséricorde, car ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il a dit, il n'est pas correct de prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux chiens. Oh, ça c'était quelque chose. Il n'a pas seulement rejeté, mais il a même comparé à un chien. Et le chien est quelque chose, la chose la plus basse que la Bible désigne. Et il a dit, ce n'est pas correct d'ôter le pain aux enfants et de le donner aux chiens. Alors elle a dit, Seigneur, c'est vrai. Vous voyez, alors c'était plus, alors pour elle, il n'était plus fils de David, il était Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cela a touché le cœur de Jésus. C'était ça. C'était le respect. Et il s'est tourné à elle. Il a dit, femme, ta foi est grande. Va à la maison. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est ainsi. C'était proche d'elle. Elle s'est approchée de lui. C'était la manière avec laquelle elle s'était approchée. Alors si par exemple je disais qu'il y a quelqu'un, un catholique qui vient et il me dirait, frère Branham, nous savons que Dieu exauce tes prières. Et si je lui disais, alors, mais tu penses que c'est correct que je perde le temps avec vous? Je ne suis pas là pour vous les catholiques, je suis là pour les pentecôtistes. Qu'est-ce qu'il ferait lui en tant que catholique si on lui dit cela? Il sortirait, il se fâcherait? Non. Cette femme s'est tournée et elle a dit, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Mais nous sommes prêts à recevoir les miettes. Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Et il a dit, ta foi est grande. Il y a encore un autre cas. Vous voyez, c'était la manière avec laquelle elle s'est approchée. C'était son respect. Elle respectait Dieu pendant qu'elle le respectait. Et nous voyons qu'un autre jour, il y avait un Romain, aussi quelqu'un de grand. Il aimait les Juifs et il avait un serviteur qui était malade, dans Luc chapitre 7, les premiers versets. Et il n'osait pas aller. Vous savez, c'est mieux de se sentir plus petit qu'on est, réellement. Si quelqu'un a une grande position et il y a quelque chose à dire, il préfère que ce soit les autres qui le disent, etc. Alors cet homme était venu et il voulait que, il avait envoyé faire dire à Jésus de venir parce que il n'osait pas aller, son serviteur était malade et il voulait que le Seigneur le guérisse. Et il a dit, non, cet homme saint ne peut pas venir sous mon toit, je suis un païen, je suis un officier, je suis un centenier, je ne suis même pas un juif, je n'ai même pas le droit que ce saint vienne. Regardez quel respect il avait pour le Seigneur Jésus. Il a dit, qui suis-je pour que je puisse faire venir le serviteur de Dieu dans ma maison et lui ouvrir ma porte? Qui suis-je? Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Peut-être qu'il avait un palais, il était vu de tous, connu de tous. Il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes. Il a dit. Et qui suis-je? Qui suis-je? Tu es envoyé aux Juifs, mais moi j'ai un serviteur. Et il est malade. Je suis un homme avec de l'autorité, a dit. Et quand je dis à un serviteur, fais ceci, il le fait. Viens, il vient. Et je sais que tu as tout pouvoir. Ce que tu dis, cela s'accomplit.
Tu peux dire à la maladie, pars et elle part, viens et elle vient. Et ça, il a reconnu. Il a reconnu que, il a compris que j'ai de l'autorité sur les soldats. Il a compris que Jésus a de l'autorité sur chaque maladie. Il prononce seulement la parole et ce que tu dis s'accomplira. C'est de ça qu'il s'agit. Prononce seulement la parole et mon serviteur va vivre. Il sera guéri. Et il s'est tourné vers les Juifs et il a dit, une telle foi, je n'en ai pas vu en Israël. Va à la maison, ton serviteur est guéri. Qu'est-ce que c'était? Il respectait le Seigneur. Il a respecté Jésus-Christ. Lui, le Dieu du ciel, bon, il fait tard. Et je voudrais encore dire une chose. Tous ces grands respects que nous avons vus, mais les choses semblent être différentes aujourd'hui. Dieu peut faire quelque chose de grand aujourd'hui et les gens se moquent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 40 ans d'ici, ça aurait été différent. Alors que le Saint-Esprit du Maillon Nouvel était descendu, c'était infusé. Mais qu'est-ce que c'était? On s'est moqué de ceux qui l'avaient reçu. On les a appelés rôle de saint. On ne voulait pas les avoir dans la ville. On les a mis de côté, on les a rejetés. Et c'est ainsi que l'Église est restée encore 40 ans et a souffert. Elle est passée par toutes sortes de choses. Il y a deux guerres depuis lors qui ont eu lieu. Des milliers sont morts. Peut-être qu'ils auraient pu déjà repartir à la maison. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors que Dieu avait commencé à déverser son esprit dans les derniers jours. Qu'est-ce qui se serait passé il y a 25 ans d'ici? Alors qu'il avait manifesté ses signes et ses miracles et envoyé. Qu'est-ce qui se serait passé si les hommes s'étaient rassemblés, s'étaient soumis à Dieu et avaient respecté? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est de la télépathie, Qu'est-ce qui se serait passé si toute la nation était venue et avait dit, oh, louez ça le nom du Seigneur, méthodiste, baptiste, presbytérien, s'étaient unis, et avaient dit, ça, c'est ce que nous avons attendu depuis longtemps. Non, ils ont désigné cela de toutes sortes de noms. Quoique l'esprit avait été répandu, beaucoup ont vu des visions et ont des prophéties se sont manifestées. Tous ces grands dons, le parler en langue, la guérison divine, tout cela était répandu, tout était là. On aurait pu dire, oh, loué soit et remercié soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Et cela a été accordé à un groupe humble, les pentecôtistes. Nous voulons repartir et briser toutes sortes d'organisations et nous unir, être unis réellement en tant que frères et sœurs. Qu'est-ce qui se serait passé? Il n'y aurait plus besoin d'hôpitaux dans le pays. Non, c'est vrai. Il y aurait eu une telle puissance qui se serait manifestée et qui aurait été à l'œuvre si on aurait respecté ce qui s'était passé. L'Église aurait dû être enlevée depuis longtemps et le millénium aurait pu commencer depuis longtemps. Mais ils se sont moqués, ils n'ont pas respecté ce qui vient de Dieu. Les journaux ont dit toutes sortes de choses, ont raconté toutes sortes de choses. Les églises se sont moquées de ce réveil et ont rejeté. On dit toutes sortes de choses sur eux. Bon. Beaucoup pourraient être encore dit là-dessus. Mais il fait tard. Nous voulons maintenant ici nous adresser au Branham Tabernacle. Dieu va répandre des dons sur nous. Ça, nous le voyons. Bon. Qu'est-ce que c'est que le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est ce que nous devons respecter. Nous devons respecter cela sur chaque personne sur laquelle il vient. Et nous devons, si Dieu envoie ces dons divins, ça n'a pas d'importance, comment est-ce qu'ils sont réels? Nous ne serons pas secourus tant que nous ne respectons pas cela. Quelqu'un peut apporter une prophétie et si vous ne croyez pas à la prophétie, elle ne vous servira à rien. Vous devez avoir du recueillement. Vous devez respecter ce qui vient de Dieu. Vous devez croire que cela est de Dieu, vient de Dieu. Croire jusqu'à ce que cela est manifesté en tant que faux. Alors vous avez seulement le droit de ne pas croire. Et vous n'êtes pas lié à cela. Si cela est prouvé faux. Mais tant que ce n'est pas prouvé en tant que tant que cela est prouvé, tant que cela n'est pas prouvé faux, croyez. Comme ce vieux Samuel a dit, il disait, je voudrais vous poser une question. Est-ce que j'ai déjà pris votre argent, je crois, dans 1 Samuel 12? Est-ce que je vous ai déjà demandé de prendre soin de ma vie? Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se serait pas accompli ou bien qui ne se serait pas manifesté? Vous avez dit, vous n'avez pas besoin de roi, il ne vous aidera pas. Vous n'avez pas besoin de roi. Et il a posé la question, est-ce que j'ai déjà prononcé le ainsi dit le Seigneur et cela ne serait pas accompli? Mais malgré tout, ils n'ont pas apporté le respect à Samuel, non. Ils ont dit, non, nous ne pouvons rien te faire de reproche, nous ne pouvons pas te faire de reproche. Tout ce que tu as dit, c'est accompli. Mais malgré tout, nous voulons avoir notre chemin. Non, vous devez vouloir le chemin de Dieu. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, c'est pas en serrant la main du pasteur. C'est Christ en vous, car il est le messager de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous devons le respecter. Quand il vient, pas que nous disions, oh, regardez cette femme, elle pleure, elle, etc. Et elle saute ici et là. Regardez les autres, comment est-ce qu'ils tremblent et comment est-ce qu'ils font. Ils ont des émotions. Vous avez déjà peut-être souvent, sûrement, blasphémé contre le Saint-Esprit. Si vous portez un jugement pendant que les croyants adorent. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Orléans, il y a 12 ans d'ici, il y avait deux femmes catholiques en tant que reporters. Pas parce qu'ils étaient catholiques, parce que plus de protestants m'ont blasphémé plus que les catholiques. Mais ces deux filles-là étaient venues pour donner un reportage de journal et ils sont rentrés dans la pièce. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dans vos bras, sous vos bras? Et elle avait une cigarette. J'ai dit, s'il vous plaît, ça, je n'aime pas que vous fumiez ici dans ma pièce, dans mon bureau. Elle m'a regardé comme si elle voulait me pousser. Et elle a dit, je voudrais maintenant vous poser des questions. Et elle a demandé, est-ce que tu es en relation avec ces rôles de saints, avec ces gens-là qui jouent un rôle de saint? Et elle disait, est-ce que tu penses que là, il y a quelque chose qui vient de Dieu dans ce groupe de fanatiques? Et elle m'a demandé, mais comment est-ce que... Et elle m'a demandé, comment tu as su que je suis catholique? J'ai dit, mais bien sûr, je connais ton nom, je sais qui tu es, bien sûr. Et elle a dit, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu veux dire que ces personnes-là qui vivent ici sur cette terre, qu'ils seront au ciel, de telles personnes seront au ciel? Je lui ai dit, alors elle a dit, alors ça veut dire que je ne veux pas aller au ciel. Si c'est comme ça, je ne veux pas aller au ciel. Alors je lui ai dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Avec ta disposition, tu ne seras pas au ciel. Avec ton état, tu ne seras pas au ciel. Et directement, je l'ai regardé dans le visage. Et il y avait des frères qui étaient assis dans la pièce. Et je voulais seulement savoir, je voulais qu'elle puisse savoir ma position. Et je lui ai dit, vous êtes venu pour trouver quelque chose, mais vous allez mais en fait, vous n'allez pas écrire ce que vous voyez, vous allez en faire votre propre histoire. Et à la femme qui parlait, je lui ai dit, avant que tu meures, et réfléchis très bien, ma voix sera à entendre de tes oreilles. Si ce n'est pas le cas, alors sache que j'étais un faux prophète. Alors je leur ai dit, écrivez ce que vous voulez écrire. Mais avant que tu meures, tu vas entendre ma voix te parler. Mais cela ne te servira plus rien. Cela ne te servira à rien. Ne t'aidera plus. Je lui ai dit, va et fais ce que tu veux. Elle a hésité. Et elle a demandé, mais qu'est-ce que tu penses de ces idiots là-bas qui se comportent comme ça bizarrement et qui pleurent et qui crient? Est-ce que ce sont des chrétiens? Je lui ai dit, mais bien sûr que ce sont des chrétiens. Ils sont chrétiens remplis du Saint-Esprit. Elle dit, mais ça, c'est pas le Saint-Esprit. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi t'appelles le Saint-Esprit? Je voulais savoir ce qu'elle allait dire. Je pensais, bon, on va voir ce qu'elle va dire. Elle a dit, moi, je veux rien avoir à faire avec de telles personnes. Je lui ai dit, mais il n'y a même pas de danger en cela d'avoir affaire à, d'être en relation avec de telles personnes. Et si tu es en relation avec Dieu ou bien alors avec ses saints, il n'y a pas de danger. Et elle dit, quoi, saint? J'ai dit, mais et vous, votre sainte Marie que vous appelez, que vous avez élevée en tant que reine, en tant que Dieu. Et je lui ai dit, avant que Dieu la laisse aller au ciel, elle aussi, avec les 120, elle devait se mettre à genoux et attendre de recevoir la puissance du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Et elle s'est aussi comportée tous avec eux comme des personnes qui avaient bu, qui étaient sous. Et elle m'a dit, ça c'est un mensonge. J'ai dit, un moment s'il te plaît. Et nous avons ouvert Actes des Apôtres. Et je lui ai dit, maintenant nous voulons lire. Et je lui ai dit, tu n'as même pas le courage de lire la parole de Dieu. Et vous voyez, pas de respect. Ouais. Et je lui ai dit, s'il te plaît, enlève ta boîte de cigarettes sur la table. Et je voudrais te dire une chose. Écris ce que tu veux. Mais ce sont mes dernières paroles que je te dis. Avant que tu meurs, tu vas entendre ma voix. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Elle n'a rien écrit comme reportage pour le journal. Qu'est-ce que c'est? Elle n'avait pas de respect. Il voulait seulement se moquer des croyants. Faire quelque chose. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est vrai. Mais ici, dans la chapelle, je voudrais que vous puissiez conserver ces choses. Si, quand Dieu commence à répandre son esprit sur des personnes, parfois, que je sais que des personnes sont entrées dans la chair, alors qu'ils étaient sous l'onction de cet esprit, j'ai vu qu'ils sont allés dans des extrêmes, mais je n'ai rien dit là-dessus. J'ai respecté. J'ai rien dit là-dessus. Vous ne devez pas comprendre. Si vous ne comprenez pas quelque chose, fermez vos yeux, fermez la bouche et respectez. Et respectez. Nous devons avoir du respect devant Dieu. Et si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, je dis, loué sois-tu, Père, tu as fait quelque chose en cette âme. Et comme cela me fait du bien, cela me fait du bien aussi aux autres. J'ai un frère qui est dans le ministère. Et il disait que j'ai parlé de lui. J'ai parlé contre lui. C'était E.E.L.N. Et il a prétendu que j'ai dit quelque chose sur lui. Et que du sang est sorti de ses mains, et que il appelle cela la preuve du Saint-Esprit. Et il a dit que je me serais moqué de lui, et que j'ai dit que cela vient du diable. Je lui ai répondu, et je lui ai dit, frère Allen, et sûrement que vous avez lu cela. Et il a partout écrit un traité qu'il a distribué, propagé, et a dit quelque chose. Et je lui ai dit, je vais t'apporter tous les 6 rognons à Phoenix enregistrés. Et je vais t'envoyer chaque cassette enregistrée. Et dans les 6 réunions, seulement une seule fois, ton nom a été nommé, mentionné, car de ma chair, il y a eu un petit papier qui a été écrit, et déposé, et il a été écrit que le frère Allen a prêché, que la preuve du Saint-Esprit, la preuve qu'on a reçue le Saint-Esprit, c'est que le sang sort des mains. Et alors, bien sûr que j'ai dû dire, je ne suis pas d'accord avec le frère Allen, que ça, ce serait la preuve qu'on ait reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de verset biblique qui nous montrerait qu'on doit avoir du sang dans les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans notre vie. Et Jésus-Christ disait, ceux qui croient, voici les signes qui accompagneront. Ceux qui croient en moi, voici les signes qui accompagneront. Ceux qui auront cru, ceux qui croient, voici les signes qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront des démons, etc. Marc 16. Mais je lui ai dit, il y a quelque chose quand même que je voudrais dire. Il est un grand homme de Dieu. Et si je pouvais prêcher comme lui, si bien prêcher comme lui, j'aurais même plus besoin d'avoir de lignée de réunion de lignée de prière pour les malades. Mais il a écrit et il a dit que moi et ça et moi j'aurais dit ceci et j'aurais dit cela. Seulement parce que quelqu'un d'autre l'a dit. Moi je suis pas d'accord avec sa théorie. Mais je ne veux pas blasphémer sur ce qu'il fait. Et être en train de parler de ce qu'il fait. Et à Minnesota, plutôt à Minneapolis, alors que là-bas, dans ce grand temple, j'avais parlé à Saint-Petersdom. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a écrit un article ou bien alors une brochure sur les démons. Et je ne sais pas si cela est vrai ou pas, mais il a écrit qu'il y a une femme qui aurait été mordue par un démon. Sur ses mains et sur son visage. Et elle a été complètement blessée. Et ils ont dit que Ellen... que le frère Hélène a écrit ce livre. Et cette même personne a écrit un bon article sur moi. Et j'écoutais toutes ces choses et les choses contraires. Et cet homme a élevé ces choses que Dieu m'a accordées. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'étais en train de lire dans le journal un article. Une certaine personne dans la ville, je ne savais même pas qu'il était assis dans la réunion, alors que je disais ça. Et j'ai dit, toutes ces critiques-là qui ont été données ici, je dois d'abord constater que je suis reconnaissant des choses qui ont été écrites sur moi, que je ne suis pas en train de courir après l'argent, et que les réunions se déroulent d'une manière sobre et correcte et normale. Mais si cet homme qui a écrit cet article dans le journal, s'il avait fait attention à ce qu'il avait écrit, alors je dois vraiment remettre en question, est-ce que tout cet article-là est vrai? Car on remarque qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il a écrit. Car si cet homme avait vraiment fait attention à ce qu'il avait écrit, il allait devoir constater qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et j'ai dit cela, j'ai pris position pour le frère Allen, sans savoir qu'il était assis dans la pièce, dans la salle. Même s'il serait dans l'erreur, je préfère le jour du jugement avoir pris position pour lui, quoi qu'il était faux et dans l'erreur, car il a essayé de servir le Seigneur et de sauver des âmes et de les conduire à Christ. Et je préfère avoir pris position pour lui que de me tenir en obstacle et contre lui. Car tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, je veux me tenir avec eux. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Dans la théologie, etc. mais je les respecte en tant que serviteur de Christ, en tant que mon frère. Ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il fasse, nous devons avoir du respect au Saint-Esprit qui est dans le frère, bien sûr. Et si nous faisions cela, Dieu, je vous dis, allait infuser son esprit sur nous. Il y avait plus de, beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient assises. Si nous respectons Dieu et nous nous ouvrons au Saint-Esprit dans ce temps dans lequel nous vivons, et si nous pouvons respecter chaque don, chaque ministère, chaque frère parmi nous, oh, comment est-ce que Dieu allait sans s'arrêter, déverser son esprit. Est-ce que vous croyez cela? Bien sûr. Nous devons avoir du respect devant Dieu. Nous voulons courber les têtes pour un moment. Avant que nous allions dans la prière, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un est ici qui dirait, frère Branham, je voudrais que tu pries pour moi. Je voudrais avoir du respect devant Dieu. Je voudrais toujours garder ma bouche en bride. Quoi qu'arrive, quoi qu'il se fasse, que Dieu puisse mettre cela dans mon cœur, de respecter chaque ministère, chaque service, chaque don. Que Dieu puisse m'accorder cela. Je vois que toutes les mains se sont élevées. Moi, je suis élevé ma main. Que Dieu puisse m'accorder. Accorde-moi à être ton serviteur et à respecter mes frères et à respecter mes sœurs. Nous te respectons, toi, le grand, le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Père. Nous te remercions pour les dons de guérison. Nous te remercions pour le don de la prophétie parmi nous. Pour le don du parler en langue. Pour le don de l'interprétation. Oh Dieu, nous te demandons que tu puisses continuer à envoyer des dons par ton esprit parmi nous et sur tous. La grande estimation que nous avons dans notre cœur, c'est pour le grand don de Jésus-Christ. Nous te remercions pour sa grâce et sa miséricorde, comme aussi sur toutes les autres petites choses qu'il nous accorde et qui nous met à notre disposition. Tout cela a eu lieu par tes souffrances et par ta mort à Golgotha. Tu nous as rachetés, tu nous as sanctifiés et purifiés et tu t'es révélé à ceux qui sont venus à toi. Nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu viens aux hommes naturels. Et nous lisons dans Luc que c'était les pauvres, le peuple ordinaire qui t'écoutait volontairement. Aujourd'hui, on dit, oh, c'est donc que des personnes ordinaires. Oui, mais c'est donc de telles personnes ordinaires qui aimaient t'écouter quand tu étais sur terre. Ce n'est pas les grands, les riches qui sont venus. Eux, ils n'ont pas prêté l'oreille. Les gouverneurs et tout ça, ils ne veulent pas t'écouter encore aujourd'hui. Mais, les hommes simples aiment t'écouter. Nous sommes des hommes simples. Et nous aimons te recevoir. Nous sommes reconnaissants et heureux comme il était autrefois. Et nous venons, et ils reviennent et nous revenons aussi, nous te louons, nous t'exaltons. Et ils pouvaient porter ton opprobre et l'opprobre de ton nom. Et on les a appelés de toutes sortes de noms, mais ils étaient heureux. Car c'était un privilège pour eux, à cause du nom de Jésus-Christ, de souffrir. Et notre Dieu et Père, nous voulons, avec les disciples d'autrefois, être unis et dire que nous sommes bénis. Et comme avec Paul, nous voulons nous tenir et dire, alors qu'il s'était tenu devant Agrippa et il a dit de cette manière que vous désigniez comme fou et insensé, c'est ainsi que je sers le Dieu de mes pères. Et il a dit, ton instruction te rend fou. Il a dit, je ne suis pas. Et ensuite, il a dit, tu vas presque me convaincre d'être un chrétien. Et j'aimerais que tu ne deviennes mais pas dans les chaînes dans lesquelles je suis. Oh Dieu, quel amour avec Paul. Même il voulait être maudit s'il pouvait sauver ceux de sa nation. Accorde-nous cet amour, ce respect les uns pour les autres, en tant que chrétien et sauvé. Regardez les autres aussi, étant chrétien et sauvé. Si quelqu'un est béni de Dieu et qui fait une erreur, ne nous donne pas de regarder à l'erreur. Comprends que c'est un précieux frère, mais Satan a voulu le tendre un piège. Et nous prions, nous devons tout de suite prier pour lui. C'est ainsi que nous avons de l'amour dans notre cœur et que nous puissions aller vers les brebis égarées pour les ramener. Oh, accorde-nous ta nature, Père, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous de la tentation et du malin, car à toi appartient la puissance. Amen. Maintenant, il y a une prophétie qui vient. Voici un dit le Seigneur, mon peuple, J'ai attiré ton attention en ce moment bien précis sur ces choses pour que tu puisses comprendre ce message en ces jours-là, selon mon ministère que j'ai établi. Je dis que tu as bien fait dans cette heure-là de prêter l'oreille à ma voix et d'écouter mon serviteur qui vous a parlé. Car je l'ai établi dans le ministère. Voici mon serviteur et mon prophète qui se tient dans ma présence et en ces jours-là qui a parlé. Je vous le dis maintenant à vos cœurs qu'ils soient fondus pour recevoir ce ministère que j'ai préparé pour vous et par lequel j'ai préparé des choses pour vous, car j'ai envoyé mon prophète. Écoutez-le, écoutez ce message. Car je vous ai amené ici et je t'ai dit beaucoup de choses et vous êtes venu dans ma maison et je prends soin de vous comme un père qui a des bonnes pensées pour ses enfants. Et j'ai envoyé mon serviteur pour parler avec toi. Levez vos yeux vers moi, sur moi, car je vous dis que mon serviteur, c'est moi qui l'ai envoyé pour qu'il puisse vous parler de ma part. Et je vais continuer à parler et à être avec vous et vous révéler les choses que qu'il a envoyé par son ministère, que ces choses-là soient confirmées de manière multiple et puissante. Je vous dis déjà aujourd'hui, je l'ai envoyé et je l'ai confirmé et je vais encore le confirmer devant les hommes. Mais voyez, le temps est là où nous devons mettre ces choses en ordre dans l'église. C'est pour cette raison, ouvrez vos yeux et acceptez ces jours, dans ces jours, ce message, car je l'ai béni et car je t'ai béni et je vais te bénir encore au-dessus de tout et je serai tous les jours avec toi, car vous avez cru. Écoutez-moi et tournez vos cœurs à moi et au ministère que j'ai établi, ainsi dit le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci toi le Saint. Comme tu es merveilleux Père, comme nous te remercions. Quelle consolation c'est la présence de ressentir directement la présence de Dieu et de l'entendre parler par des lèvres humaines, confirmant qu'il est Dieu et qu'il demeure Dieu. Nous te remercions pour cela Père. Demeure avec nous Seigneur et supporte-nous pour que nous puissions, pour que nous soyons ton peuple. Nous te le demandons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'être un chrétien? Est-ce que ce n'est pas merveilleux de connaître Dieu et de connaître sa présence? Car, tel qu'il a fait aujourd'hui, pour la deuxième fois, il a d'abord parlé à cette sœur par la lumière, tel qu'on a dit, et il lui a dit parce qu'elle a cru le message. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Combien l'aime de tout votre cœur et de toute votre âme. Il est merveilleux. Nous voulons nous lever.
Oh. Quand